Chapitre 14e. Quatrième course de Surcouf dans l'Inde. Maladie. Le cap monte de verre. Robert Surcouf me fait enseigne. La confiance. Départ. Triste rencontre. Nous capturons plusieurs navires anglais. Effet du calme sous l'équateur. Rencontre de la Sibie. Quant à moi, encore sous l'impression du désastre qui avait failli me coûter la vie, et de plus, atteint de quelques éclaboussures pendant le combat, je me trouvais dans un pitoyable état de santé. Je fus donc forcé de me mettre au lit. Pendant la maladie que j'eus à subir, et dont, grâce à Dieu, la force de ma constitution, unie à une volonté ferme, me tira assez promptement, M. de Montalan, mon généreux ami, me rendit de fréquentes visites. J'entrais déjà en convalescence lorsqu'il vint un jour en compagnie du capitaine de corsaire, le malouin Ripaud de Montaudevert, passer une partie de la journée avec moi. Le capitaine Montaudevert, à qui l'ermite, dont il est l'ami, a beaucoup parlé de vous, lui a promis de s'occuper de votre sort, me dit-il. Ainsi, mon cher Louis, tenez-vous l'esprit en repos. D'un jour à l'autre, dès que vous serez rétabli, il vous sera donné de prendre votre revanche sur la fortune et sur les Anglais. En attendant, je vous apporte quelques centaines de piastres que je viens de toucher au moyen de votre procuration pour votre part de prise de la perle. Les chevaux arabes se sont admirablement bien vendus. « Je vous remercie beaucoup, mon cher monsieur, » lui répondis-je. « Cet argent m'arrive avec d'autant plus d'à-propos que ma bourse se trouve complètement à sec. Au reste, ces quelques piastres représentent, avec les faibles appointements que j'ai touchés pour mon voyage à Bobtok sur le Mathurin, tout ce que j'ai gagné depuis que je suis dans la marine. Et cependant, j'ai déjà assisté à bien des combats et essuyé d'assez grandes fatigues. Quoi ? C'est là tout ce que vous avez gagné pendant votre carrière maritime, mon pauvre jeune homme ? S'écria le capitaine Montaudevert. Jour de Dieu ! Je veux, moi, que vous preniez une éclatante revanche sur la mauvaise fortune. Et quand je veux une chose, je ne suis pas breton pour rien. Il faut que cette chose arrive. Parbleu, il n'y a pas de temps à perdre. « Je m'en vais de ce pas retenir votre place, » ajouta le corsaire en se levant. « Soyez sans inquiétude, je me charge de l'obtenir. » À présent, si cette fois vous ne réussissez pas au-delà de votre attente, il faudra réellement que vous ayez du guignon. « Je vous suis bien reconnaissant, capitaine, mais de quelle place parlez-vous, je vous prie ?»« D'une place que j'accepterai avec bonheur pour moi si je n'étais pas moi-même capitaine. Mais je vous le répète, le temps presse. » « Rétablissez-vous vite, je viendrai vous prendre dans 3-4 jours. » L'excellent malouin parti, je me creusais en vain la tête pour essayer de deviner de quoi il s'agissait. Mais je ne pus y parvenir. Aussi fut-ce avec un vif plaisir que je le vis entrer 3 jours plus tard dans ma chambre. Complètement remis de ma maladie, puisque déjà la veille j'avais été faire un tour de promenade seul et à pied, il me trouva debout et habillé. « Il paraît que ça va bien. » me dit-il. « Allons, venez, on vous attend. » Le malouin, sans répondre aux questions que je lui adressais autrement que par un petit sourire mystérieux, hâta le pas et s'arrêta enfin devant la maison de messieurs Tabois Dubois, riches négociants de l'Île-de-France. « Le capitaine est-il visible ? » demanda-t-il au premier nègre qu'il rencontra, et sur la réponse affirmative de l'esclave, Montaudevert monta rapidement l'escalier et s'arrêta au premier étage. Des éclats de rire, des paroles fortement accentuées et le bruit d'une discussion animée, quoique amicale, se faisaient entendre derrière une porte à laquelle mon conducteur frappa. « Entrez !» répondit une voix sonore. Le malouin poussa la porte, me prit par le bras et me fit passer devant lui. Je restai assez intimidé en me trouvant dans un grand salon rempli de monde, mais je me remis bientôt, en reconnaissant parmi les personnes présentes plusieurs de mes connaissances, entre autres les enseignes Roux, Fournier et Vielard, et le contremaître Gilbert, qui tous avaient navigué avec moi sur la preneuse. « Ah, te voilà, mon brave Ripaud !» s'écria un jeune homme de 24 à 25 ans, qui s'avança avec empressement vers le capitaine de corsaire et lui serra cordialement la main. « Fais ton grog à ta guise, allume-moi ce cigare et causons. »« Merci, Robert, » répondit Montaudevert. « Tout à l'heure, je boirai, je fumerai. » Et je causerai tant que tu voudras. Mais auparavant, laisse-moi te présenter le jeune homme dont je t'ai déjà parlé, le favori de l'ermite. C'est jeune, solide, plein de bonne volonté, instruit, et ça n'a pas encore eu de chance. Il n'a pas l'air bien gai, mais ne fais pas attention. Il n'y a pas encore 2 mois que Garneret voyait couler l'Amphitrite et se noyer notre pauvre ami Malroux. Ça lui a laissé du noir dans la tête. « Bon, à quoi s'avance-t-il de se miner le tempérament ?» s'écria le jeune homme en me tendant la main. « Top là, mon ami, et ne te fais pas de bile. Quand on a rempli son devoir, on doit savoir se ficher du guignon. Tu me plais, parole, reste à dîner avec moi. Je t'ai guéré à mort, et demain, après cette biture, tu chanteras comme un rossignol. Va-t'en préparer ton grog, je veux trinquer avec toi à ta chance future. » Le jeune homme, après m'avoir parlé ainsi, se dirigea vers un nouvel arrivant, tandis que je me rendais au buffet pour arranger mon grog. Du reste, je dois avouer que j'étais surpris au possible. Quel pouvait être, me demandai-je, ce jeune homme si simplement mis, dont l'air est si fier, si hardi, le regard si hautain et si perçant, qui me promet sa protection et commence, sans m'avoir jamais vu, par me tutoyer comme si nous étions amis depuis 10 ans. Quant à Montaudevert, loin de répondre à mes questions, il semblait prendre un malin plaisir à jouir de mon embarras. Ne pouvant obtenir aucun éclaircissement du capitaine de corsaire, je reportais toute mon attention sur l'inconnu qui m'intriguait tellement que, profitant de ce qu'il était occupé à causer, je me mis à l'examiner avec une vive attention. Ce jeune homme pouvait avoir, je l'ai déjà dit, de 24 à 25 ans. Quoique d'une taille élevée, environ 5 pieds 6 pouces, il était replet et de forte corpulence. Cependant, on devinait sans peine, à la charpente vigoureuse de son corps, qu'il devait posséder une force et une agilité musculaire vraiment extraordinaires. Ses yeux, un peu fauves, petits et brillants, se fixaient sur vous comme s'il eût voulu lire au plus profond de votre cœur. Son visage, couvert de taches de rousseur, était un peu bronzé par le soleil. Il avait le nez légèrement court et aplati, et ses lèvres minces et pincées s'agitaient sans cesse. Au total, il semblait un bon vivant, un joyeux convive, un solide marin, et il éveilla toute ma sympathie. Seulement, le tutoiement dont il s'était servi vis-à-vis de moi ne me plaisait que médiocrement, et je me promis de lui faire sentir cette inconvenance. Je venais d'achever de préparer mon grog lorsqu'il revint nous trouver. « Eh bien, Garneret, sommes-nous plus gais à présent ? Allons, trinquons. Ta jeunesse et ton mauvais guignon, mon enfant, m'ont tout à fait disposé en ta faveur. Sans compter, m'a-t-on dit, que l'ermite estimait. Et l'ermite est un gaillard qui se connaît en individu. À ta santé, merci. » L'inconnu avala alors d'un seul trait son grog brûlant et reprit. « Voilà qui est convenu, Garneret. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Tu viendras prendre mes ordres et gazouiller un peu avec moi tous les matins. Je t'attache à ma personne en qualité d'aide de camp. » « Je te remercie beaucoup, lui répondis-je, mais je voudrais bien savoir d'abord quel est ton nom. »« Mon nom ? » s'écria l'inconnu en éclatant de rire. « Ah, tu ne sais pas mon nom ?» Puis se retournant alors vers le capitaine Ripaud de Montaudevert, qui faisait des efforts inouïs pour garder son sérieux. « Satané farceur ! » lui dit-il en se tenant les côtes. « C'est comme cela que tu blagues tes protégés. Après tout, elle est bonne, la charge, sacré farceur, va. » L'inconnu s'abandonna encore pendant quelques secondes à sa gaieté, puis reprenant enfin un air sérieux. « Garneret, me dit-il simplement et sans paraître attacher la moindre importance à sa réponse, je suis capitaine de corsaire et je me nomme Robert Surcouf. » Ce nom, auquel je ne m'attendais pas, produisit sur moi une impression profonde et me fit battre le cœur. « Quoi ? Ce gros et grand garçon, si jeune, si rond, si jovial, n'était autre que ce célèbre corsaire, l'honneur de la France et l'effroi des Anglais, dont j'avais déjà si souvent entendu parler par les meilleurs marins, avec une admiration et un respect profond. J'étais presque tenté de me croire encore le jouet d'une mystification. « Eh bien, me dit Montaudevert lorsque nous sortîmes ensemble, êtes-vous content ? Vous voilà attaché en qualité d'aide de camp au seul homme qui puisse et sache dominer la chance et commander au hasard. Que le diable m'emporte, si une seule croisière avec lui ne vous dédommage pas amplement de tous vos ennuis passés. Mais voulez-vous venir à présent avec moi à la Pointe-Forge, où l'on s'occupe à réaspalmer la confiance ? C'est le nom du navire que commande Surcouf. Cette vue vous fera plaisir, car je ne connais rien qui approche, pour la perfection des formes, de ce navire, que l'on a surnommé l'Apollon de l'océan. On conçoit que cette proposition me plaisait trop pour que je ne m'empressasse pas de l'accepter. Nous prîmes un bateau et nous nous dirigeâmes vers la pointe aux forges. Il faudrait avoir été marin pour comprendre l'émotion, ou pour être plus exact, l'enthousiasme que me causa la vue de cette admirable construction. La Confiance était un navire dit à coffre, du plus fin modèle qui ait jamais paré les chantiers de Bordeaux. On devinait au premier coup d'œil quelle devait être la supériorité de sa marche. Elle portait 18 canons. Je ne sais si l'intention de l'excellent Montaudevert avait été, en me conduisant à la pointe aux forges, de faire une diversion à la tristesse qui m'accablait. En tout cas, la vue de la Confiance opéra un grand changement dans la situation de mon esprit. De retour à la ville, exalté par l'examen minutieux de la Confiance auquel je m'étais livré avec ardeur, je ne rêvais plus qu'aventure et combat, et je chassais sans peine, pour la première fois depuis plus de 2 mois, de ma pensée le souvenir des désastres de l'Amphitrite qui m'avait si longtemps poursuivi sans relâche et sans trêve. Fidèle à la recommandation de mon nouveau capitaine, je me rendais chaque matin chez lui, et chaque fois je le quittais en sentant mon attachement et mon admiration pour sa personne augmenter de force. Surcouf était un de ces hommes qui, enveloppés d'une écorce assez rude, ne peuvent être devinés et compris à la première vue. Ses manières rondes, aisées mais originales, exigeaient que l'observation, pour pouvoir arriver jusqu'à comprendre son génie, commençait d'abord par se familiariser avec sa nature. Au reste, bon et joyeux vivant s'il en fut jamais, il possédait une gaieté communicative dont on ne pouvait se défendre. Personne, je demande pardon au lecteur d'employer une expression un peu vulgaire et qui commençait alors à prendre une grande vogue, personne ne blaguait mieux que lui. Son esprit vif, actif et plein d'à-propos ne lui faisait jamais défaut pour l'attaque ou pour la riposte. Je me rappelle même à ce sujet une réponse qu'il adressa à un capitaine anglais. Ce dernier prétendait que les Français, ce qui au reste était assez vrai pour Surcouf, ne se battaient jamais que pour de l'argent, tandis que les Anglais, disait-il, ne combattaient que pour l'honneur et pour la gloire. « Eh bien, qu'est-ce que cela prouve ? » lui répondit le Malouin, « sinon une chose, que nous combattons chacun pour acquérir ce qui nous manque. » Un matin que je me rendais, selon mon habitude, chez Surcouf, je le rencontrais dans la rue. Il me prit familièrement par le bras et m'emmena avec lui. « Garneret, mon garçon, tu vois en ce moment dans ma personne un homme très ennuyé. J'ai une corvée à remplir qui me pèse sur la poitrine. Ne puis-je, capitaine, m'en charger pour vous ? Impossible, tu es trop blanc-bec pour cela, mon garçon. Il s'agit, vois-tu, de tenir tête à un diplomate et à un financier, pourvu que je ne me mette pas en colère. J'ai affaire à un capitaine de 2 liards du commerce et au consul du Danemark. C'est là que demeurent ces 2 chenapans, continua Surcouf, en me désignant une maison située près de la grande église. Monte avec moi et attends-moi un peu. Je ne resterai pas longtemps. Nous reviendrons ensemble. Pendant que mon capitaine entrait dans le salon où se trouvait le consul danois, l'on me faisait passer dans un petit cabinet contigu à cette pièce, dont une mince cloison le séparait seulement. Ce fut à cette disposition des lieux que je dus d'entendre en entier, et aussi distinctement que si je me fusse trouvé avec eux, la conversation qui s'établit entre le capitaine, le consul danois et Surcouf, conversation que je rapporte fidèlement ici, pour donner une idée des précautions que prenait le capitaine de la Confiance et des sacrifices qu'il savait faire pour préparer ses succès. Après quelques échanges de politesse qui me permirent de connaître la voix du consul danois, Surcouf prit la parole. « Monsieur, dit-il en s'adressant au consul, j'ai peu de temps à perdre et je vous demanderai la permission de vous rappeler en 2 mots le motif qui m'amène près de vous et que vous devez soupçonner déjà. Voici le fait. J'ai besoin, pour ma prochaine croisière, de renseignements précis sur l'état actuel des côtes de l'Inde. Je viens donc vous prier de remettre au capitaine ici présent, votre compatriote et votre consigné, des lettres d'expédition qui l'autorisent à prendre langue à Batavia, puis de remonter le détroit de Malacca, et coupant le golfe, de l'ouest à l'est, de visiter les ports de la côte de Coromandel, de Ceylan, et d'aller m'attendre à un lieu que je lui indiquerai par l'intermédiaire d'un de mes officiers lorsque son navire sera 25 lieues au nord de cette île. Me comprenez-vous bien ?
Parfaitement, illustre capitaine. Seulement ce que vous me demandez est impossible.
Quoi ? Vous voudriez que moi, le représentant du Danemark, je m'associe à vos projets contre l'Angleterre, cette généreuse nation qui respecte notre pavillon et lui accorde protection et liberté sur les mers ? Vous ne pouvez penser sérieusement à cela.
Très sérieusement, et voici pourquoi. C'est que si votre capitaine accepte, je lui donnerai, en toute propriété, une cargaison qui lui servira à déguiser le but de son voyage d'exploration, et que le jour même de son départ, je vous compterai à vous, monsieur le consul, un agréable pot de vin dont nous allons, si vous le voulez, fixer dès ce moment l'importance.
Un court silence suivit cette proposition de mon patron. Ce fut le capitaine danois qui, le premier, reprit la conversation.
« Ô gloire de la marine française » s'écria-t-il en s'adressant à Surcouf. « J'aimerais mieux de l'argent comptant. »
« Soit. Monsieur le consul, ici présent, vous remettra 10 traites de 500 gourdes chacune, payables à vue sur Batavia, Banca, Malacca, Madras, Pondichéry et Trinquemalais. »
« Mille pardons, commandant Surcouf, » interrompit le consul. « Je ne demande pas mieux que d'être utile à un homme de votre immense mérite et de votre réputation, mais cette bienveillance que je ressens pour vous ne doit pas cependant me faire oublier toute prudence. »
Or, en supposant que ce digne capitaine, mon compatriote, soit légèreté, soit imprudence, commette quelque indiscrétion, comprenez-vous, ayant des preuves écrites de ma participation, quoique indirecte, dans cette affaire, le tort irréparable qu'il pourrait me causer ?
C'est juste. Alors revenons à ma première idée. J'embarque sur le navire de votre capitaine, que vous ne manquerez pas de mettre à contribution, des marchandises cotées au plus bas prix de facture, pour une valeur de 3 000 piastres. Au taux où sont maintenant les liquides français dans l'Inde, vous gagnerez à la vente de ce chargement, qui vous appartiendra en toute propriété, au moins 100%.
Oui, capitaine, c'est possible. Mais si l'on soupçonnait que jamais j'étais votre observateur, l'on me pendrait.
Or, s'exposer à un tel ennui pour 6 000 piastres, interrompit le capitaine danois.
C'est plus que vous ne valez, s'écria brusquement Surcouf.
« Oui, capitaine, si je n'étais pas père de famille. »«
Eh bien, à mon retour de croisière, je vous remettrai 3 000 piastres en plus, si j'étais satisfait de
mes renseignements ?»
se hâta d'ajouter le capitaine danois.
« Non, de votre espionnage, » reprit durement Surcouf.
« Capitaine, cette parole est celle de pot de vin que vous avez employée si légèrement déjà à mon sujet, » interrompit le consul d'un air indigné,
« donne à notre entrevue un tour que je ne puis supporter. »
« Oh bah, je me moque pas mal de toutes vos manières, moi, » s'écria Surcouf d'une voix tonnante.
« Croyez-vous bonnement que je vais perdre mon temps à vous conter des douceurs ? J'ai besoin d'un traître et d'un espion. Je vous dis à vous, monsieur le consul, voulez-vous être mon traître ? À vous, capitaine, voulez-vous être mon espion ? Ce langage est clair, c'est l'essentiel. J'adore la clarté. À présent, un mot. Et remarquez que de ce mot dépend votre fortune. Oui ou non ?
« Si c'est non, bonsoir. Je m'en vais de ce pas trouver des gens plus intelligents que vous, et qui ne refuseront pas leur bonheur.
Voyons, monsieur, à vous, répondez. »«
Oui, capitaine, » dit le consul. « Seulement, je vous en supplie, permettez-moi de vous adresser une demande. »«
Voyons cette demande. » »«
C'est que vous m'engagiez votre parole d'honneur, que vous ne parlerez à personne au monde de notre transaction.
Je vous la donne. »«
À présent, à votre tour de répondre, capitaine, s'il vous plaît. »
« Oui, » s'écria le Danois, « seulement,
rien de plus, c'est assez, voilà une affaire conclue, au revoir. »
Surcouf alluma alors son cigare et s'en fut sans ajouter un mot. Je le rejoignis au bas de l'escalier.
« Eh bien, capitaine, lui dis-je, êtes-vous sorti vainqueur de vos ennuis ?»«
Oui, mon garçon, merci. J'ai remarqué une chose, c'est qu'en affaire, je me suis toujours bien trouvé de ma brusquerie et de ma rondeur. Avec cela, je viens à bout de tout. »
L'installation du corsaire marchait activement, et nous comptions pouvoir prendre la mer dans un mois au plus tard, lorsqu'un événement auquel Surcouf était loin de s'attendre vint lui causer un grave embarras. Surcouf avait négligé jusqu'alors, sachant l'empressement que les matelots disponibles à l'Île-de-France mettraient à s'embarquer avec lui,
de compléter l'équipage de la Confiance. Il savait que sur à peu près 150 frères Lacôte, inoccupés pour le moment, pas un seul ne lui ferait défaut. Or, voilà qu'un matin il apprend que le capitaine du Tertre armait également un corsaire nommé le Malartic en honneur du gouverneur et général de ce nom. Du Tertre qui, les souvenirs de l'amitié ne doivent pas nous faire déguiser la vérité, était certes l'égal de Surcouf pour le courage, l'intelligence et les connaissances maritimes, avait dans l'île de nombreux partisans. Breton comme Surcouf, il était natif de Port-Louis. Il ralliait à sa personne tous les Lorientais qui se trouvaient dans la colonie, et puis un grand prestige s'attachait à sa personne. On savait que les deux seuls mobiles de sa conduite étaient l'amour de son état et la haine de l'anglais. Du Tertre, désintéressé, ne tenait pas plus à l'argent qu'aux douceurs de la vie, et pendant ses croisières, il mangeait à la gamelle avec son équipage. Quant à Surcouf, il était connu pour avoir plus de chance, grand point pour les marins, que son rival, mais on savait qu'il aimait à trouver dans la richesse une compensation à la fatigue et au danger. Au total, la sympathie et l'intérêt des frères Lacôte agissant sur eux en sens inverse, les deux capitaines rivaux avaient à peu près les mêmes chances de succès pour compléter leurs équipages. Inutile d'ajouter que Surcouf et Du Tertre ne pouvaient se souffrir. Forcés de reconnaître réciproquement leurs mérites véritables, ils conservaient aux yeux du monde une attitude convenable vis-à-vis l'un de l'autre, mais en particulier, et dans le cercle de leurs intimes, ils se décriaient amèrement. Au reste, je dois ajouter que le plus violent des deux corsaires était sans contredit Du Tertre, qui, sans être pourtant le moins du monde cruel, aimait passionnément et par-dessus tout la lutte et les combats. Pas un homme ne se montrait plus terrible que lui dans les abordages. La chance pour former leurs équipages était donc égale, je le répète, entre les deux capitaines, et chaque état-major des deux corsaires agissait activement pour embaucher le plus de matelots possible, lorsqu'en arrivant un matin chez Surcouf, selon mon habitude, je le trouvais furieux et exaspéré, sacrant et jurant comme un diable. « Qu'a-t-il donc de nouveau, capitaine ? » lui demandai-je avec empressement. « Ce qu'il y a de nouveau, mille tonnerres ! » s'écria-t-il. « Encore une nouvelle infamie de ce damné Du Tertre ! Cet hypocrite-là vient de faire annoncer et afficher qu'au lieu de manger, selon son habitude avec son équipage, il aura pendant cette croisière une table de capitaine, et que ce sera son équipage qui mangera avec lui. » Pour donner plus de poids et de consistance à cette blague, il a fait placer des cages à poules à son bord jusqu'au ras des bastingages. De plus, il s'engage, le maudit farceur, à relâcher tous les 15 jours pour se procurer des vivres frais. Tous les frères Lacôte sont tombés dans le panneau et ne veulent plus s'embarquer qu'avec lui. Mais que le diable me torde le cou si je ne lui sers pas à mon tour un plat de mon métier. J'ai mon idée, nous verrons. Surcouf, après avoir prononcé ces paroles avec colère, mit son chapeau et se précipitant vers la porte, sortit précipitamment sans nous expliquer davantage ses projets. Or, voici, ainsi que nous l'apprîmes plus tard, de quelle façon s'y prit notre capitaine pour contrecarrer les intentions et neutraliser l'avantage obtenu par Du Tertre. Surcouf envoya au bureau de la marine une 60aine de mauvais drôles, créoles ou étrangers, en leur remettant 2 piastres à chacun pour leur peine, se faire porter sur le rôle de son équipage, chacun sous le nom d'un matelot qu'il désirait avoir et qu'il leur indiqua. La chose s'opéra sans la moindre difficulté. Quelques jours plus tard, ces mêmes matelots, portés à leur insu sur les registres de la marine, furent appelés au commissariat. Que l'on juge de leur étonnement et de leur fureur lorsqu'ils apprirent qu'ils se trouvaient engagés malgré eux. L'esprit d'opposition agissant, ils commençaient à pousser des vociférations menaçantes lorsque le commissaire de la marine, M. Marcouf, petit provençal vif et entêté au dernier degré et le croque-mitaine des frères Lacôte, se présenta inopinément à leur regard. Soit que M. Marouf se trouvât ce jour-là dans une mauvaise disposition d'esprit, soit que Surcouf lui rendît une visite particulière, toujours est-il qu'il affecta la plus grande colère, et prononçant le mot de révolte, il fit fermer les grilles du commissariat de la marine et appeler des troupes en toute hâte. Ah, « c'est comme ça, mes enfants, que vous tenez à vos promesses et que vous respectez l'autorité, » dit-il au frère Lacôte, que sa présence avait déjà calmé. « Eh bien, nous allons rire. Je m'en vais d'abord vous inviter à passer quelque temps à ma maison de campagne.
Vous vous reposerez là, tout à votre aise de vos orgies de ces jours derniers. Ensuite, nous aviserons. » Or, ce que M. Marouf appelait si agréablement sa maison de campagne était une geôle affreuse située derrière la porte du port et adossée au bureau de la marine. Ce que le marin aime par-dessus tout, ai-je besoin de le dire, c'est sa liberté. Mais au moment du départ, quand il lui reste une orgie à finir, un baiser d'adieu à donner, une piastre à dépenser, cet amour atteint chez lui des proportions inouïes. On n'aura donc pas lieu de s'étonner que la menace du petit Provençal produisit une immense terreur sur ses frères Lacote, si insouciants cependant devant la mitraille et la tempête. Surtout, le traître Surcouf, profitant habilement de ce moment critique, apparut alors comme un dieu sauveur. Il supplia le terrible Marouf de vouloir bien retarder de quelques instants l'accomplissement de sa menace, se faisant fort, lui, Surcouf, de ramener au sentiment du devoir les malheureux égarés qui refusaient avec si peu d'intelligence le bonheur qui les attendait. Le commissaire de la marine, vaincu par la prière du corsaire, consentit, tout en grognant, à lui accorder ce qu'il demandait. Seulement, il fixa le terme de la conciliation à 10 minutes. 10 minutes, c'était beaucoup pour Surcouf, qui savait aborder si carrément de front les affaires. Elles lui suffirent, surtout en renchérissant de 50 piastres les avances qu'il faisait sur celles de Dutertre pour lui gagner une 40aine de matelots, le reste des frères Lacôte ayant demandé jusqu'au lendemain pour réfléchir. Que l'on juge de la rage de ce dernier, lorsqu'il apprit quelques heures après ce funeste événement, il jura de s'en venger, et, joignant aussitôt l'action à la parole, il fit annoncer immédiatement que, loin de chercher à diminuer la part des matelots par un luxe d'état-major comme celui déployé par Surcouf, son état-major se composait de 30 personnes, il s'engageait à ne prendre qu'une 12aine d'officiers, le nombre strictement nécessaire pour conduire les prises et pour remplir le quart du bord. Qu'en outre, tout le monde à bord du Malartic, lui tout le premier, ainsi que les officiers, toucherait part de prise égale. Cette annonce eut un succès prodigieux. « Part égale ?» répétaient les matelots avec enthousiasme. « Vive Dutertre ! Faudra-t-il pour nous embarquer avec lui déserter et aller ensuite en barque le rejoindre à la mer, nous le ferions !»« Parbleu !» dit Surcouf lorsque cette nouvelle lui revint. « Nous avons, Dutertre et moi, pris jusqu'à présent une mauvaise marche pour terminer ce débat. Un tête-à-tête de 5 minutes au Champ de Mars décidera bien mieux ce différend. » Dutertre, de son côté, se livrait à une réflexion tout à fait semblable qu'il annonçait à ses amis. Telles étaient les dispositions des deux capitaines à l'égard l'un de l'autre, lorsque le soir même de la prétendue scène de révolte, si facilement réprimée par le Provençal Marouf, ils se rencontrèrent tous les deux au Grand Café. Le Grand Café à l'Île-de-France était à cette époque le rendez-vous favori des duellistes, des flâneurs et des corsaires. Il paraît Surcouf, s'écria Dutertre, qui rougit de colère en voyant entrer son rival, « que tu viens d'obtenir une place de commis dans les bureaux de la marine. Je te fais mon sincère compliment sur ton nouvel état. » »« Merci, Dutertre. Reçois aussi toutes mes félicitations pour la nouvelle profession que tu as choisie depuis peu. » »« Laquelle, Surcouf ?»« Mais celle de cuisinier et de rôtisseur. On prétend que tu as débuté par un magnifique achat de poules. » À cette réponse, Dutertre se levant, s'avança à la rencontre de Surcouf, qui s'empressa d'imiter son mouvement. Surcouf lui dit avec un sang-froid qui ne lui était certes pas habituel et qui ne manquait pas de dignité, « Tous ces propos sont déplacés dans la bouche de deux hommes tels que nous. Il serait à peine convenable dans celle des ferrailleurs de ce café. Je t'estime et tu m'estimes. Je te défie de dire le contraire. »« C'est vrai, » répondit Dutertre, « mais tu éprouves à mon égard la même envie que je ressens au tien, celle de me tuer. Oui, j'en conviens. » « Alors, à demain matin, au Champ de Mars, au point du jour, n'est-ce pas ?»« À demain matin, au point du jour, au Champ de Mars, c'est entendu. »« À présent, veux-tu boire un punch avec moi ?»« 10, si tu le désires. » Les deux capitaines s'assirent alors à la même table et se mirent à causer comme si de rien n'était. Cette scène entre les deux plus célèbres corsaires de l'Île-de-France avait produit, on le conçoit, une vive émotion parmi les habitués du café. Mais personne ne se permit d'y faire la moindre allusion pendant tout le reste de la soirée. Il était près de minuit, et les deux rivaux se donnaient une poignée de main avant de se retirer, lorsqu'un aide de camp du général Malartic
vint les prévenir qu'il était chargé par le gouvernement de les conduire sans les perdre de vue en sa présence. La désobéissance était impossible et tous les deux durent se soumettre. Ils s'acheminèrent donc, suivis de l'officier vers le gouvernement. À peine étaient-ils entrés dans le salon que le vénérable Malartic, s'avançant à leur rencontre et les pressant dans ses bras, « Qu'allez-vous faire, malheureux ? » leur dit-il d'une voix émue. « Ne comprenez-vous donc pas que, quelle que soit l'issue de la rencontre que vous devez avoir dans quelques heures, et dont je viens d'être par bonheur instruit, ce sera toujours un immense triomphe pour l'Anglais ? Surcouf et vous, du Tertre, croyez-vous donc que votre existence à chacun ne soit pas préférable pour les intérêts de la France à un vaisseau de haut bord ? Certes, et vous voulez que l'un de vous demeure. Quel est cependant celui de vous deux qui, pour satisfaire sa haine, consentirait à faire perdre à notre marine un vaisseau de haut bord ? Pas un. Vous voyez bien que vous êtes des fous, des mauvaises têtes, et qu'il est fort heureux que le hasard amène entre vous deux un vieillard qui vous apprenne ce que vous valez et qui vous aime. Allons, embrassez-vous, et qu'il ne soit plus question de rien. » Il y avait une si paternelle autorité dans la parole du vénérable et vénéré gouverneur que les deux capitaines en furent touchés. Ils s'embrassèrent alors en se jurant une éternelle amitié. « À présent, leur dit le général, que tout est terminé, voulez-vous me permettre d'examiner le motif pour lequel vous vouliez vous battre ? C'était simplement pour avoir chacun de 60 à 80 matelots afin de compléter vos équipages, n'est-ce pas ? Eh bien, si au lieu de jouter de ruse et de finesse, vous ne vous étiez pas laissé aveugler par votre rivalité, vous auriez pensé à une chose fort simple. C'est qu'il y a justement 160 frères à la côte de disponibles en ce moment, tout aussi bons marins les uns que les autres, et qu'en les tirant tout simplement au sort, vous aviez juste chacun votre affaire. » À cette remarque parfaitement juste du gouverneur, Surcouf et Dutertre ne purent s'empêcher de rire en songeant à combien de dépenses, de colère et d'ennui les avait entraînés la vivacité irréfléchie de leur rivalité. Deux jours avant l'appareillage de la Confiance, eut lieu ce que l'on appelle la revue de départ, c'est-à-dire que les matelots se rendirent au bureau des classes pour se faire inscrire, reconnaître et surtout pour toucher des avances. Rien n'est plus original et plus amusant pour un observateur que d'assister à ce spectacle. Ici, c'est une femme éplorée qui, au milieu des larmes que lui arrache le départ de celui qu'elle aime, trouve moyen de ne pas perdre de vue la somme qu'on lui avance et finit par s'en emparer presque en entier. Plus loin, c'est une épouse acariâtre et franchement rapace que son malheureux mari comble de prévenances inusitées pour tâcher de lui soustraire une partie des piastres qu'il vient de toucher. Presque partout, ce sont des matelots qui essaient de s'expliquer leur compte et qui, bientôt impatientés de n'y pouvoir parvenir, remettent philosophiquement cet examen à leur premier voyage. Enfin, ce sont des créanciers qui, après avoir profité de la tentation irrésistible que produit toujours le crédit sur le marin, se jette, oiseau de proie affamé, sur le prix de ses travaux et de ses dangers futurs. Ici, la lutte prend un caractère d'acharnement féroce réellement curieux. Le matelot furieux et le créancier implacable se livrent à des assauts de discours dignes, certes, des provocations des héros d'Homère. Le dénouement est que le premier finit par être forcé de donner plus qu'il ne voudrait, le second par recevoir infiniment moins qu'il ne demande, et tous les deux se séparent en s'accablant de malédictions réciproques. 6 mois après, s'ils se rencontrent, ils tomberont dans les bras l'un de l'autre et reprendront bientôt leur ancien rôle de débiteur et de créancier pour se refâcher plus tard encore. Comment dire à présent les prétentions soit bizarres, soit exagérées que posent certains matelots comme condition dernière de leur embarquement ? Cela nous mènerait trop loin et demanderait au moins un volume. Toutefois, je dois ajouter que pour peu que les officiers présents à la revue possèdent la moindre connaissance du caractère du marin, ils viennent facilement à bout de ses exigences. Je citerai, afin de mieux me faire comprendre, un des 50 exemples, pris au hasard, qui se présentèrent et dont je fus témoin pendant la revue de l'équipage de la Confiance. « Moi, dit un matelot en s'avançant à son tour de rôle, à l'appel de son nom, je veux bien m'embarquer en qualité de simple Santa Busca, mais à une seule condition, c'est que je ne prendrai plus de riz. « On ne te demande que de faire ta besogne comme tout le monde, mon garçon, » lui répondit notre second, M. Drieux. « Je ne dis pas non, mon capitaine, mais j'en ai trop pris de riz. J'en veux plus. Ça, c'est dans ma tête et ça n'en sortira plus. »
Je conçois l'exigence de cet homme, reprit M. Drieux en se retournant vers nous. Il ne sait pas comment se prend Harry et il aurait peur de montrer son ignorance.
« Ah, vous croyez ça, mon officier ?»
s'écria le matelot piqué au vif dans son amour-propre.
« Eh bien, vous vous trompez joliment bien. Demandez donc un peu à M. Duterre, à M. le Même, à M. Montaudevert et au capitaine Lhermitte, si je ne connais pas un peu bien mon métier.
« Ah, c'est comme ça ?» continua le matelot en s'animant de plus en plus à l'idée que l'on mettait en doute ses connaissances.
« Alors entendez-vous, je ne m'embarque plus que comme gabier. Je ne veux plus quitter la hune. Ah, je ne sais pas prendre un riz ?»
C'est drôle tout de même de prétendre ça. On verra. Je vous montrerai que rien qu'avec la jarretière de ma maîtresse, je sais souquer une empointure plus vite et mieux que n'importe quel matelot du bord.
3 jours après la revue, sonna l'heure du départ. Le canon, qui tire d'heure en heure, annonce à l'équipage de la Confiance, joyeusement occupé à gaspiller ses avances, qu'il est à faire ses adieux au plaisir de la terre, que la saison des prises est venue.
Fidèle au devoir, la troupe chancelante des matelots, que suit un long cortège d'amis, de femmes, de petits marchands et de créanciers, arrive bientôt sur la plage et se jette, dernier vestige d'un luxe mourant, dans des canots pavoisés. Avant de se séparer, on s'embrasse, on se serre les mains, il y a même quelques larmes véritables de répandues et tout est dit. Combien y en a-t-il parmi ces hommes si forts et si confiants de l'avenir que l'on ne reverra plus ? Quels sont ceux que le fer ou le plomb anglais doivent jeter sanglants dans l'arène? On l'ignore, et cette incertitude, qui plane sur tous, donne une certaine solennité mélancolique à cette heure suprême de la séparation.
Au large, les embarcations! Crie enfin d'une voix retentissante M. Drieux. Les rames s'agitent et l'on s'éloigne. Toute la population de la ville a envahi les quais du port pour voir appareiller la Confiance. Bientôt l'équipage est sur le pont. Les voiles sont déployées, puis l'on entend comme un éclat de tonnerre que répètent à l'infini les échos des montagnes. C'est le dernier coup de partance, le corsaire est à pic. Alors, au commandement de Surcouf, le petit phoque montre rapidement sa face triangulaire. On dérape l'ancre. La nappe du petit hunier abandonnant la vergue pèse, gonflée par la brise, sur le mât de misaine qui s'assure par un léger craquement. Le navire tourne sur sa quille, développe au vent son flanc armé, toutes les voiles s'orientent au bruit des sifflets des maîtres, des hurrahs et des chants tumultueux de l'équipage, puis, reprenant enfin le joug de son gouvernail, la Confiance s'élance en creusant un sillon qui montre qu'elle saura franchir 100 lieues par jour. Adieu, délicieuse île de France! Qui sait si nous ne te reverrons jamais, paradis enchanté du marin? À présent, nous appartenons au hasard.
Une semaine s'était déjà écoulée depuis notre départ de Port-Maurice et depuis 3 jours. Grâce à la marge supérieure de la Confiance, nous avions franchi l'équateur lorsque nous eûmes connaissance un matin d'un gros navire. Nous fîmes route dessus pendant toute la journée et toute la nuit, car l'heure des ténèbres venue, ce navire arbora un fanal dans sa mâture comme s'il tenait beaucoup à nous indiquer sa position. Personne à notre bord, pas même Surcouf, ne comprenait rien à cette singulière conduite. Enfin, le lendemain matin, grâce à la rapidité de notre sillage, nous parvînmes à l'atteindre et nous reconnûmes de suite en lui un Hollandais. Nous vîmes écrit sur son couronnement en lettres d'or le mot « bateau ». C'était son nom. Une chose qui nous surprit beaucoup, c'est que le Hollandais faisait route à la rencontre d'un canot qui flottait alors à une certaine distance de lui. Enfin, nous sommes à portée de la voix, et nous pouvons d'autant mieux communiquer que notre route étant la même que la sienne, nous voguons de conserve avec lui. Surcouf s'informe aussitôt de la position du bateau, et une voix faible et exténuée lui répond que l'on manque de tout à bord. Notre commandant dirige de suite une embarcation vers le navire hollandais. Cette embarcation nous ramène bientôt un homme pâle, défait, aux joues creuses, aux yeux hagards, à la barbe longue et inculte. C'était le capitaine du bateau.
« J'ai faim et j'ai soif, »
dit-il d'une voix sourde en mettant le pied sur le pont de la Confiance. Surcouf s'empresse de lui faire servir un bouillon et une bouteille de bon vin vieux que le malheureux avale avec avidité, puis, plus fort alors, il peut répondre aux questions qu'on lui adresse et nous raconter sa lamentable histoire. Tout l'équipage l'entoure
et écoute avidement son récit. C'est un des plus lugubres épisodes maritimes que l'on puisse concevoir. Je le rapporte aussi fidèlement que me le représente encore ma mémoire. J'étais parti, emportant avec moi une riche cargaison et un assez grand nombre de passagers, nous dit-il, lorsque nous fûmes surpris par un de ces calmes plats, comme il ne s'en trouve que sous l'équateur. Les premiers jours, mes passagers s'amusaient à jeter différents objets flottants dans le sillage du bateau pour pouvoir se rendre compte de sa lenteur. Deux semaines plus tard, ces légers débris flottaient encore le long de notre bord. Le découragement, l'impatience et la nostalgie principalement commençaient à nous gagner lorsque, pour comble de malheur, une affreuse maladie épidémique s'abattit sur nous. Dès lors, le bateau présenta un spectacle affreux, partout des gémissements, des imprécations et des pleurs. L'épidémie sévissait dans toute sa force lorsque notre chirurgien en fut atteint lui-même et en mourut. À partir de ce moment, les malades abandonnés au hasard désespérèrent de leur position et, se livrant sans résistance au fléau qui les terrassait, perdirent toute confiance de l'avenir et commencèrent à succomber avec une effrayante rapidité. Chaque matin, lorsque je me levais après une nuit d'insomnie, mon premier regard était pour le ciel, que j'examinais avec angoisse. Mais rien n'y décelait un changement de temps. Partout des indices de calme et de chaleur, nulle part l'espoir de voir s'élever la brise. Cependant, je prenais sur moi-même d'assurer aux passagers que le calme ne pouvait continuer, que j'étais même certain que d'ici à peu il cesserait tout à fait. Les premières fois, l'on me crut, et je parvins ainsi à ranimer un peu la confiance des malheureux malades. Mais en voyant chaque jour mes prophéties démenties, mes promesses ne pas se réaliser, ils finirent enfin par m'accuser d'incapacité, par ne plus ajouter foi à mes paroles et par retomber dans leur profond découragement. Que vous dirai-je de plus, capitaine? 46 jours s'écoulèrent ainsi. L'eau et les provisions vinrent alors à nous manquer, et si mon équipage résistait mieux que mes passagers à la fatigue, il n'en était pas moins pour cela exténué de soif, d'inanition et en proie à la nostalgie. Enfin, le 46e jour, le ciel parut vouloir mettre un terme à notre cruelle souffrance. La brise se fit sentir, et nous aperçûmes à toute vue les voiles d'un navire qui blanchissait l'horizon. En cet instant, toutes les peines furent oubliées. Les parents des victimes, dominés par cet instinct puissant de la conservation qui n'abandonne jamais l'homme, essuyèrent leurs larmes pour ne plus songer qu'à eux-mêmes. Ils allaient bientôt avoir de l'eau en abondance, des vivres à discrétion. Pouvaient-ils songer à autre chose? Malheureusement, notre espoir fut encore déçu. La brise qui s'était élevée s'éteignit presque subitement, et le navire que nous apercevions à peine à travers l'espace devint immobile. Nous tînmes immédiatement un conseil, dont le résultat fut qu'il nous fallait à tout prix aborder ce navire. Si c'est un simple bâtiment de commerce, il nous donnera au moins de l'eau, pensions-nous. Si c'est un vaisseau de guerre ennemi, il nous prendra. Si c'est un vaisseau ami, il nous prêtera probablement un chirurgien pour soigner nos malades. Notre résolution avait été facilement prise. Toutefois, son accomplissement présentait les plus grandes difficultés, car l'équipage était si exténué, si faible, qu'il ne pouvait guère trouver assez de force pour mettre à la mer le canot qui devait transporter notre petite expédition à bord du bâtiment en vue. Cependant, grâce à l'espèce de surexcitation que nous donnait l'espérance de posséder bientôt de l'eau fraîche, nous vînmes à bout de cette expédition. Une fois l'embarcation à l'eau, 6 matelots de bonne volonté s'y embarquèrent. Mon fils, jeune homme de 18 ans et de grand avenir, qui servait sous mes ordres en qualité de lieutenant, en prit le commandement. Moi, je ne voulais pas consentir à le laisser partir, mais il me représenta si éloquemment que sa parenté avec moi était justement ce qui devait le forcer à donner l'exemple du dévouement et du courage, que je ne pus m'opposer plus longtemps à son désir. Seulement, avant de lui permettre de descendre dans le canot, je lui donnai toutes les instructions que je crus nécessaires, et je le prévins que s'il n'était pas de retour avant la nuit, je ferais hisser un fanal en tête du grand mât pour lui indiquer la position du navire. Je lui recommandai en outre de relever de temps à autre la boussole pour connaître la direction à suivre pour revenir à bord du bateau. Toutes ces précautions prises, je l'embrassai tendrement, ainsi que ses 6 compagnons de voyage, car quoiqu'ils n'eussent guère que 5 lieues à franchir, ils étaient tous si faibles
que cette courte distance présentait pour eux les plus grands dangers. Enfin, le canot partit. L'équipage, s'appuyant sur les bastingages, le salua d'une longue acclamation d'encouragement et de reconnaissance. Soit que les hommes qui montaient la frêle embarcation fussent excités et soutenus par cette marque d'intérêt, soit que la pensée qu'ils allaient bientôt pouvoir combattre la soif qui les dévorait leur eût rendu une partie de leur force, toujours est-il que nous les vîmes, avec un sentiment de joie indicible, appuyer sur leurs avirons avec vigueur et s'éloigner rapidement. Après un quart d'heure de ce violent exercice, rendu plus fatigant encore par un soleil de plomb, ils s'arrêtèrent pour reprendre haleine, mais ce temps de répit dura peu. L'embarcation se mit de nouveau en marche. Seulement, je crus m'apercevoir que cette fois les canotiers ralentissaient peu à peu le mouvement régulier de leur rame. Hélas, les voilà qui s'arrêtent encore. Ma longue vue braquée sur eux, je ne perds aucun de leurs mouvements. Je les aperçois d'abord essayant de ranimer leurs forces en buvant les quelques gorgées d'eau que nous leur avions accordées pour les soutenir pendant leur voyage. Ensuite, ils s'adressent tous à la fois en gesticulant à mon fils qui tient la barre. Celui-ci semble discuter avec eux et s'oppose avec force à leur projet. À la longue, il finit, je devine cela, son geste plein de désespoir, par céder. Qu'exige-t-il donc? Ils veulent abandonner leur projet et retourner à notre bord. Ils ne se sentent plus capables d'atteindre le navire en vue. Vain projet! Accablés par les efforts imprudents qu'ils ont faits pour s'éloigner avec vitesse, ils sont incapables d'exécuter leur nouvelle résolution. Je les vois allongés sur les bancs de l'embarcation dans l'attitude d'un morne désespoir. Le capitaine hollandais, à cet endroit de son récit, laissa tomber sa tête avec accablement et se mit à verser d'abondantes larmes. Nous étions tous émus et nous gardions un respectueux et pénible silence. Du courage, capitaine, lui dit Surcouf d'une voix douce et en lui pressant affectueusement la main. Ne vous laissez pas abattre ainsi. Vous avez sous vos ordres un navire dont le salut dépend de votre intelligence et de votre sang-froid. Sachez donc refouler votre douleur au plus profond de votre cœur, pour ne plus songer qu'au devoir et à la responsabilité que vous impose votre position. Quant à ce récit qui affaiblit votre courage, laissez-le inachevé. Le Hollandais releva la tête et remerciant Surcouf du regard. « Non, capitaine, je ne reculerai pas devant la douleur. Laissez-moi poursuivre. » Le découragement des matelots de l'embarcation fut long et dut être terrible. À la fin, cependant, je les vis sortir de leur torpeur et reprendre leurs avirons. Mon cœur bondit de joie. Mon fils m'allait être rendu. Jugez de mon désespoir quand j'aperçus les canotiers ramer dans des directions opposées et faire tournoyer l'embarcation. Je comprends tout. Ces malheureux n'ont pu résister à une fatigue au-dessus de leur force, au soleil ardent, dont les rayons, brûlants comme la lave d'un volcan, tombent mortels sur leur tête. Ils sont en proie au délire. Plusieurs de mes matelots aux aguets, comme moi, remarquent aussi ce fatal événement. À un moment, ils se consultent entre eux à voix basse, puis s'avancent enfin vers moi. « Capitaine, me disent-ils, nous ne sommes pas très robustes, mais la bonne volonté ne nous manque pas. Et avec l'aide de Dieu, l'on peut bien des choses. Nous ne pouvons en tout cas laisser périr ainsi, et votre fils et les camarades qui se sont dévoués pour nous. Il nous reste encore une pirogue. Avec votre permission, nous allons la mettre à la mer. Non, mes amis, leur dis-je en faisant taire dans mon cœur, devant le sentiment du devoir, le désespoir que j'éprouvais. Non, cela ne se peut. Car votre projet, certes, compromettrait le sort du navire. » Mes matelots insistèrent, mais je ne voulus pas démordre de ma résolution, et ils durent finir par céder devant ma volonté. Un seul espoir me restait, celui qu'à la tombée de la nuit, les gens du canot, rafraîchis par l'absence du soleil, retrouveraient alors assez de force pour regagner notre bord. Ce dernier espoir ne devait pas me rester longtemps, car bientôt je manquais de m'évanouir de crainte et d'horreur en voyant les canotiers monter sur leurs bancs, dénués du petit dentelet qui les ombrageait, se saisir de leurs avirons avec une force surhumaine et qui constatent l'intensité de leur délire et faire de cet instrument de salut un instrument de carnage, une arme de désespoir. « Capitaine, me dirent encore mes matelots, au nom du ciel, au nom de la vie de votre fils, laissez-nous mettre la pirogue à la mer,
cette embarcation est facile à manier. Mais vous, malheureux, oh, mon capitaine, si nous succombons, la perte ne sera pas bien grande. Nous ne sommes plus bons à rien. Non, mes amis, m'écriai-je avec violence, car je me sentais prêt à céder. Je ne veux pas. Je ne suis déjà que trop coupable pour avoir si légèrement exposé ces cinq hommes. J'allais poursuivre, quand je ne dirais pas des cris, mais bien des hurlements poussés par les hommes de l'embarcation, s'élevèrent au large avec tant de violence que nous restâmes tous à bord, frappés de stupeur et d'effroi.
« Capitaine, me disent mes matelots. « Allez, leur répondis-je, j'étais vaincu.
Les gens de l'équipage se précipitent à la pirogue, on l'affale à l'eau.
Dévouement inutile, les bordages, longtemps exposés à l'action brûlante d'un soleil de feu, se sont disjoints,
et l'étoupe qui s'est séchée dans les coutures tombe par l'effet des secousses et du frottement qu'éprouve l'embarcation en descendant le long du navire. À peine la pirogue est-elle parvenue à la mer qu'elle s'emplit.
Nous ne pouvions plus rien tenter en faveur des canotiers, rien. J'avais besoin de pleurer. Je me retirai un moment dans ma cabine.
Il me fut impossible d'y rester longtemps, et je me hâtai de remonter sur le pont. Un matelot s'était emparé de ma longue-vue que j'y avais laissée et la tenait braquée sur le canot. Je l'interroge d'un regard.
« Ils ne sont plus que quatre, » me répondit-il d'une voix émue. « Mais le lieutenant se tient toujours à la barre. »
Enfin, la nuit arriva. Le soleil avait disparu cette fois au milieu de vapeurs moins éclatantes que celles qui, les autres soirs, illuminaient l'horizon. Mais cet indice de la brise est si vague, si peu certain, nous y avons déjà été trompés si souvent, que je n'osais plus y croire. Toutefois, j'ordonnai qu'un large fanal fût hissé à la pomme du grand mât. La lumière bientôt se répand, immobile comme le navire qu'elle éclaire, et laisse tomber sur le pont une lueur sinistre qui reste attachée aux mêmes objets. Le calme épouvantable de cette scène de mort n'est interrompu de temps à autre que par des clameurs délirantes auxquelles succède presque aussitôt un lugubre silence. Ce silence à son tour dura peu. De nouveaux cris sont poussés par les malheureux matelots de l'embarcation. La nuit prêtant une grande sonorité à la mer et à l'air, nous distinguons à bord du bateau jusqu'au moindre soupir que poussent les canotiers en expirant sous les coups effrénés qu'ils se portent dans leur rage insensé. Jugez, capitaine, ce que je devais souffrir. Toutefois, une douleur plus grande encore m'était réservée. Ce fut le silence complet qui succéda enfin à tous ces râles et à toutes ces clameurs, et qui cette fois dura tout le reste de la nuit. Le capitaine hollandais s'arrêta un moment à cet endroit de son récit, puis rappelant à lui tout son courage, il reprit bientôt ainsi. « Je ne vous dirai pas, capitaine, mes angoisses de cette nuit. Nulle langue humaine ne pourrait les rendre. » Je continue. Au moment où les premiers rayons du jour éclipsaient la lumière blafarde du fanal hissé au grand mât, un léger souffle fit vaciller sa lumière. C'était la brise qui se levait. Vous dépeindre les transports de joie que cet événement causa à l'équipage me serait impossible. Quant à moi, je l'accueillis avec indifférence. N'était-il pas trop tard pour sauver mon fils? Les voiles carguées pendant les cruels jours de notre supplice sont bientôt livrées au vent qui les arrondit et les enfle. Mes matelots, retrouvant quelque énergie, réussissent à déferler et à hisser les huniers pendant que les passagers recueillent avidement les gouttes de pluie qui tombent sur le pont. Quant à moi, une seule idée me poursuit, me préoccupe, si le ciel voulait que je pusse sauver mon fils. Oh non! « Cela est impossible, ce serait trop de bonheur. N'importe, je m'empresse, au premier souffle de la brise, de faire diriger le navire sur l'embarcation. Moi-même, je me suis placé à la barre du gouvernail. Un dernier supplice m'attendait. Le vent s'élevant subitement, saute et change plusieurs fois de suite. Je ne puis plus retrouver le canot. Ce matin seulement, un peu avant que vous m'abordiez, le hasard, qui semble avoir voulu dans ce drame lugubre, ne m'épargner aucune douleur, m'a conduit juste en face de l'embarcation. Quel affreux spectacle! Autour d'elle régnait le silence. Aucun des canotiers ne se montrait à bord. Le canot était rempli d'eau. Qui sait, capitaine, si accablés de faim et de fatigue, ils ne se seront pas couchés sur les bancs? Me dit un matelot en voyant mon désespoir. Quelque illusion que fût cette espérance, je m'y cramponnais avec toute l'énergie de ma douleur. Le navire approche encore. « Ah, mon Dieu,
De larges taches de sang couvrent le plat-bord et les bancs du canot autour duquel rôdent encore d'énormes requins. »
Le malheureux capitaine du bateau, en prononçant ces dernières paroles, tomba en proie à des spasmes nerveux et nous eûmes beaucoup de peine à lui faire reprendre connaissance. Son récit nous avait tous profondément émus. Surcouf, ne trouvant aucune consolation capable de soulager une douleur pareille à celle de ce malheureux père, se contenta d'envoyer en quantité à bord du bateau des provisions et des médicaments, puis, serrant une dernière fois la main du capitaine hollandais, qui le remerciait au nom de son équipage, il se sépara de lui sans prononcer un mot. L'impression profonde que nous avait causée ce récit dura peu. On parla quelque temps encore du bateau, mais la nuit venue, personne n'y pensa plus. Notre croisière, jusqu'alors favorisée par un temps magnifique, ne nous avait encore donné aucun résultat. Poussés par un vent propice, les premières terres que nous aperçûmes furent les îles de Sumatra et de Java, qui resserrent entre leurs bords les œufs bleuâtres du détroit de la Sonde. Bientôt nous mouillâmes, pour remplacer le bois et l'eau dont nous nous étions dégarnis en faveur du navire hollandais, dans la délicieuse baie de Cantaï. Cette baie ouverte est encadrée dans un paysage ravissant, et le gibier y abonde. Nous y restâmes un seul jour. Le lendemain de notre départ, nous capturâmes un trois-mâts américain que l'on expédia à l'île de France. Son capitaine nous apprit la présence de la frégate de sa nation l'Essex sur la rade de Batavia, dont nous étions éloignés alors d'environ 20 lieues. Cette fâcheuse nouvelle dérangea complètement notre plan de campagne. Au lieu d'établir notre croisière dans les parages où nous nous trouvions, en attendant que la saison nous permît d'affronter le golfe et les brasses du Bengale, nous cinglâmes vers l'archipel des Seychelles. Surcouf comptait attendre là la fin de la mousson du nord-ouest et gagner ensuite les bouches du Gange. Vers le milieu du mois d'août, nous appareillâmes de Sainte-Anne, où nous perdîmes 3 de nos hommes qui périrent sous nos yeux dans le chavirement d'une pirogue dévorée par les requins, et nous parvînmes enfin à l'endroit choisi par Surcouf pour établir notre croisière. Surcouf, chacun avait fait et s'était communiqué cette remarque, semblait depuis quelques jours inquiet et préoccupé. Nous le voyions à chaque instant consulter de sa longue vue l'horizon désert et donner des signes d'impatience et de colère. Nous nous trouvions à l'est de Ceylan quand nous aperçûmes une goélette danoise portant un pavillon jaune au mât de misaine. À cette vue, qui n'avait cependant rien de bien intéressant pour nous, Surcouf poussa un énergique juron et sa figure refléta la joie la plus vive. Dès que le navire danois fut à portée de fusil de la confiance, son capitaine vint à notre bord. Je le vois encore descendant sous notre pont d'un air hypocrite, humble, et portant un gros registre sous son bras. « Illustre capitaine, » dit-il en s'inclinant profondément devant Surcouf, mais ce dernier lui coupant la parole, « Venez avec moi, nous causons plus à notre aise dans ma cabine. » Au premier mot prononcé par le danois, il me sembla que j'avais déjà entendu sa voix. En consultant mes souvenirs, je me rappelais que cette voix était la même que celle du capitaine avec qui Surcouf avait eu une conférence, surprise par moi, chez le consul de Danemark. Je compris tout alors. Cet homme était notre espion, qui venait rendre compte de l'honorable mission dont Surcouf l'avait chargé. En effet, pendant 3 heures entières, il resta enfermé avec notre capitaine dans la grande chambre. Il paraît qu'il avait fait consciencieusement les choses. À partir de cette époque, la confiance, qui établit sa croisière de la côte malaise à la côte Coromandel et vice-versa, en remontant le golfe du Bengale, ne cessa plus de faire d'heureuses rencontres. En moins d'un mois, nous capturâmes 6 magnifiques navires, tous chargés de l'importance l'un dans l'autre de 500 tonneaux. 5 de ces navires étaient anglais, le dernier un faux arménien. Décidément, pensais-je, les 6 000 piastres ou 30 000 francs déboursés par Surcouf lui rapportent de fort beaux intérêts. Une fois nos prises expédiées, notre équipage se composait encore de 130 frères de la côte déterminés. Avec de telles forces, un navire comme la Confiance et un capitaine qui se nommait Surcouf, il nous était permis d'espérer que nos succès ne devaient pas s'arrêter de si tôt. De temps en temps, nous étions chassés par des croiseurs anglais de haut bord, et il nous fallait prendre chasse devant eux. Ce qui humiliait un peu notre amour-propre national. Nous nous consolions en songeant que notre métier était de combattre pour la fortune, non pour la gloire. Au reste, la confiance marchait d'une façon si supérieure
que nous éprouvions même dans notre fuite un certain sentiment d'orgueil en nous voyant éviter aussi facilement les Anglais. L'idée du désappointement et de la colère que devait leur faire éprouver l'inutilité de leurs efforts chatouillait agréablement la haine que nous leur portions. Il y avait déjà près d'une semaine que nous naviguions ainsi bord sur bord sans avoir rien rencontré, lorsqu'un beau matin la vigie cria « Navire !»« Où cela ?» demanda Surcouf, que l'on fut de suite, selon ses ordres, prévenir. « Droit devant nous, capitaine. Est-il gros, ce navire ?»« Mais oui, capitaine, du moins il le paraît. Tant mieux. Quelle route tient-il »«
Impossible de le savoir, car on le voit debout. Au reste, vous devez pouvoir le distinguer à présent d'en bas. »
Aussitôt, toutes les lunettes et tous les yeux se dirigèrent vers le point indiqué. On aperçut, en effet, une haute pyramide mobile tranchant par sa blancheur sur le brouillard épais qui, dans ces parages, descend la nuit des hautes montagnes de la côte et enveloppe encore le matin les abords du rivage.
« Ce navire peut être aussi bien un vaisseau de haut bord qu'un bâtiment de la Compagnie des Indes, » nous dit Surcouf.
« Que faire ? Ma foi, si c'est un navire de guerre, eh bien, tant pis, nous rirons. Si c'est un navire marchand, nous le capturerons. » La brise de terre favorisait la voile en vue, tandis que la Confiance, au contraire, était retenue par le calme. Néanmoins, nous orientons grand largue sur elle. Elle imite notre manœuvre. Nous cinglons bâbord à mur, elle cingle tribord à mur. Toutes nos suppositions vont bientôt cesser, car les deux navires voguent à pleine voile l'un vers l'autre. Deux lieues nous séparent à peine, et quoiqu'il soit fort difficile d'apprécier la force d'un vaisseau sous l'aspect raccourci que nous présente l'inconnu, nous commençons déjà nos observations. Nous acquérons d'abord la certitude que ce navire possède une batterie couverte, ensuite qu'il est supérieurement gréé et que ses voiles sont taillées à l'anglaise. Voilà sa nationalité connue. Sur ce point, le doute n'est plus possible. Oui, mais quelles sont au juste sa force et sa nature ? C'est un problème que personne ne pourrait résoudre. Le temps seul est à même de l'expliquer. L'attente ne sera pas longue. Seulement, la position de la Confiance se complique, car la brise, d'abord molle, a fraîchi au point de nous faire filer trois nœuds à l'heure. Cependant, afin de sortir plus tôt de notre doute et de connaître notre ennemi, nous nous débarrassons de nos menus voiles et, loffant de deux quarts, nous orientons au plus près. Le navire en vue s'empresse encore cette fois de répéter notre manœuvre. Toutefois, comme de part et d'autre une divergence de deux quarts dans la route est insuffisante pour nous permettre de nous apprécier, la Confiance, après avoir couru pendant quelque temps sous cette allure, laisse arriver de trois quarts sur bâbord. Le mystérieux vaisseau se hâte de laisser arriver aussi, de manière à nous couper sur l'avant. Et nous nous retrouvons de nouveau dans une position oblique qui nous laisse toutes nos incertitudes, car de nombreux ballots et une grande quantité de futailles masquent sa batterie d'un bout à l'autre. Surcouf, impatienté, arpente le pont d'un pas nerveux et saccadé en mordant à chaque pas, avec fureur, son cigare. L'équipage est irrité. Malheur à l'inconnu s'il est de notre force et si nous en venons aux mains avec lui. La vélocité la plus grande que pouvait déployer la Confiance, comme au reste cela a lieu pour tous les navires fins voiliers, était celle qu'il obtenait par l'allure du plus près. Seulement, comme une pareille manœuvre eût été dangereuse au moment d'un combat, nous revenons du lof et nous allons bouline, afin de conserver, quelle que soit l'issue de cette aventure, l'avantage du vent et la possibilité, en cas d'une nécessité absolue, d'opérer notre retraite. Enfin, nous commençons à gagner du vent sur l'inconnu. Donc, nous marchons mieux que lui. Chacun se réjouit à cette découverte. Quant à lui, fidèle à sa tactique, il n'avait pas manqué encore cette fois d'imiter notre manœuvre. « Parbleu !» dit Surcouf. « Nous saurons bien tout à l'heure si cet empressement à nous rejoindre est fin ou réel. Je suis un vieux renard, par l'expérience, à qui l'on n'en fait pas à croire facilement. Je connais toutes les ruses. En combien d'occasions n'ai-je pas vu des vaisseaux marchands, quand ils ont pour eux une belle apparence, et qu'ils sont commandés par des capitaines au fait de leur métier, essayer d'effrayer ceux qui les chassent en feignant de désirer eux-mêmes le combat. Encore un peu de patience. Voilà que nous approchons ce farceur-là à vue d'œil. Je ne sais, mais j'ai idée qu'il y a là de la fanfaronnade et de la ruse dans tout cela. » Surcouf, pénétré de cette idée, dirige de telle façon la marche de la Confiance que nous nous trouvons à la fin forcés de passer au vent de l'ennemi. Nous risquons donc, si notre commandant s'est trompé, de recevoir à brûle-pourpoint une bordée qui peut nous causer des avaries majeures et nous mettre à la merci de l'ennemi. Puis enfin, en passant sous le vent à lui, nous courons le danger d'être abordés. « Messieurs, nous dit Surcouf, qui connaît trop quelle est sa supériorité pour craindre d'avouer son erreur, j'ai commis une grosse faute. J'aurais dû laisser arriver d'abord et chasser ensuite sous différentes allures pour m'assurer de la force et de la marche de l'anglais. » Notre capitaine se frappa alors le front avec violence, rejette loin de lui son cigare, puis reprenant de suite son sang-froid. « C'est une leçon, » répond-il tranquillement, « j'en profiterai. » Surcouf, retiré sur la poupe, interroge avec soin un grand registre sur lequel sont crayonnés des dessins de navires. Au bas de chaque dessin se voient plusieurs lignes d'écriture. « Parbleu, messieurs, » nous dit-il tout à coup, « voilà mes doutes éclaircis. Vous êtes des officiers de corsaires et non des enfants. À quoi bon vous cacher ma découverte ? Remarquez bien l'anglais. Il a un buste pour figure, des bras de civadière à palan simple et une pièce neuve au-dessus du richasse de son petit hunier, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est tout bonnement une frégate. Et savez-vous quelle est cette frégate, Garneret ? Continua Surcouf en se retournant vers moi. C'est cette coquine de Siby qui, dans ces mêmes parages, a pris il y a 2 ans la forte que commandait votre parent Beaulieu-le-Loup. Sacré nom ! Nous aurons fort à faire pour nous en débarrasser. Car son capitaine, qui a été tué dans le combat contre la forte, était un rusé renard, et il a laissé des élèves dignes de lui. Après tout, je ne suis pas non plus précisément un imbécile. Voyons un peu s'il morde à l'hameçon. Que je parvienne seulement à orienter la confiance au plus près, et je serais curieux de savoir comment ils s'y prendront alors pour nous rattraper. Ah, si je ne me trouvais pas privé de la moitié de mes hommes, dispersés sur les prises que j'ai dû envoyer à l'Île-de-France, pardieu, quoique cela ne me rapporte à rien, je me passerai la fantaisie de dire de moi l'anglais, histoire d'essayer de venger la forte. Mais avec mon équipage si restreint, je ne puis songer à me procurer cet agrément. Ce serait sacrifier la confiance, sans chance de succès. Hein ? Il vaut mieux les tromper. Quelle ruse inventée ! Quelle hameçon tendre ! Surcouf plaça alors sa main devant ses yeux comme pour s'isoler de toute préoccupation extérieure et resta réfléchi pendant à peine 5 à 6 secondes. Lorsqu'il nous montra de nouveau son visage, nous comprîmes, au sourire moqueur qui plissait ses lèvres, que tout espoir n'était pas perdu. Cependant, nous n'étions plus guère éloignés que d'un quart de portée de canon de la Siby. À peine Surcouf a-t-il prononcé quelques mots que déjà il est compris. Aussitôt, malgré la gravité de notre position, qui semble désespérée, officiers et matelots se mettent en rayon à l'œuvre. On retire des grands coffres un assortiment complet d'uniformes anglais, et chacun se travestit en toute hâte. 5 minutes ne sont pas encore écoulées, que l'on ne voit déjà plus que des Anglais sur notre pont. La mascarade ne laisse plus rien à désirer. Alors une 30aine de nos hommes, d'après l'ordre de Surcouf, suspendent leurs bras en écharpe ou emmaillotent leur tête. Ces hommes sont des blessés. Pendant ce temps, on cloue en dedans et en dehors des murailles du navire des plaques en bois destinées à simuler des rebouchages de trous de boulets, puis on défonce à coups de marteau les plats-bords de nos embarcations. Enfin, un véritable Anglais, notre interprète en chef, affublé de l'uniforme de capitaine, prend possession du banc de quart et du porte-voix. Surcouf, habillé en simple matelot, est placé à ses côtés, prêt à lui souffler la réplique. Nos préparatifs étaient achevés lorsqu'un jeune enseigne de notre bord, M. Bléas, s'avança coiffé d'un chapeau à casque au pied du banc de quart où se tenait Surcouf. « Me voici à vos ordres, capitaine, » lui dit-il. « J'espère que vous approuverez mon travestissement. »« Il est, on ne peut mieux réussir, mon cher ami, » lui répondit Surcouf en riant. « À présent, écoutez-moi avec la plus grande attention. La mission que je vais vous confier est de la plus haute importance. » Si je vous ai choisi pour être le héros de la comédie, c'est d'abord en votre double qualité de neveu de l'armateur de la confiance et d'intéressé dans les actions du corsaire. Ensuite, parce que vous parlez admirablement bien anglais, enfin, par suite de l'estime toute particulière que m'inspire votre intelligence et votre sang-froid. Je ne puis vous répéter que ce que je vous ai déjà dit, capitaine, je suis à vos ordres. Je vous remercie. Vous allez, Bléas, monter dans la yole et vous rendre à bord de la Siby. « Bien. Dans 10 minutes, vous m'apercevrez sur le pont. »« Du tout. Dans 5 minutes, je veux voir, vous étant dedans, votre yole s'emplir.
Vrai, Surcouf?
Eh bien, je veux bien couler, quitte à me faire croquer par un requin pendant que je me sauverai à la nage. Mais que le diable m'emporte, et que la Sibie nous capture si je comprends votre intention.
Ça ne fait absolument rien à la chose, Bléas. Vous avez, oui ou non, confiance en moi?
Puisque je vous dis, capitaine, que c'est convenu.
Ah, à propos, mais les gens qui m'accompagneront, ne craignez-vous pas qu'ils ne trouvent la plaisanterie un peu forte et qu'ils ne refusent de s'y associer?
Vous n'avez rien à craindre à ce sujet.
Vos gens sont avertis, dévoués, et ils joueront leur rôle à ravir.
À présent, voici 100 doublons pour vous et 25 pour chacun d'eux.
Cet argent est destiné à charmer les loisirs de votre captivité, mais ne craignez rien.
Je vous promets que vous sortirez de prison avant d'avoir eu le temps d'entamer sérieusement cette somme.
Oui, je vous promets. Dussé-je donner 50 anglais en échange contre vous, que vous serez tous libres bientôt.
À présent, inutile d'ajouter car je vous connais, qu'en outre de ces 100 doublons et de vos parts de prise, une magnifique et copieuse récompense sera prélevée sur la masse pour vous et pour vos hommes.
Oh, capitaine, quant à cela,
bah, laissez donc, de l'or, ça porte bonheur.
Ainsi, vous m'avez bien compris.
On ne peut mieux, capitaine.
N'allez pas au moins vous jeter à la nage.
Quoi ?
S'écria l'enseigne Bléas avec une stupéfaction comique. Est-ce qu'il faut nous laisser noyer ?
Non, farceur, dès que vous aurez de l'eau à mi-jambe et que votre embarcation sera convenablement pleine, vous appellerez à votre secours et en bon anglais surtout les hommes de la Sibie. C'est arrêté, convenu, adjugé.
Oui, capitaine, ça ne fait pas un pli.
Alors, une poignée de main et sautez dans le canot.
Robert Surcouf, s'adressant alors au patron de la yole, nommé Kerenvragne.
Kerenvragne, mon garçon, tu as confiance en moi, n'est-ce pas ?
Sacré tonnerre, si j'ai confiance en vous.
Mais c'est vraiment, sauf votre respect, ce que vous me demandez là, mon capitaine.
Encore pire qu'un dieu, vous dis-je.
Bois ce verre de vin, ma santé. Prends ce gros épissoir,
reprit Surcouf en lui présentant l'instrument annoncé.
Et puis, quand vous serez à mi-chemin de la frégate, flanque-moi deux ou trois bons coups au fond de la yole de façon qu'elle s'emplisse promptement.
Ici, Surcouf parla bas à l'oreille de Kerenvragne, qu'il affectionnait au reste particulièrement, et lui remit, en essayant de le dissimuler, un rouleau recouvert en papier que ce dernier laissa tomber dans la poche de son pantalon.
C'était pas la peine, dit Kerenvragne. Enfin, ça n'y fait rien.
Salut, capitaine. Tu ne m'embrasses pas.
Comment donc ?
Mais avec beaucoup d'agrément,
répondit le marin, extrêmement flatté de cette marque d'amitié et en repoussant au fond de sa bouche la formidable chique qui gonflait sa joue.
10 secondes plus tard, la yole, commandée par M. Bléas, quittait notre bord. La Confiance, serrée de près, se débarrasse de toutes ses voiles hormis les huniers, laisse arriver plavant arrière, assure d'un coup de canon le pavillon anglais hissé en poupe, revient l'off sur bâbord et met en panne. De son côté, la Sibie, qui ne semble pas ajouter une foi bien entière dans notre prétendue nationalité, fait porter quelques quarts pour nous tenir toujours sous sa volée, laisse tomber à l'eau quelques-uns des prétendus ballots qui encombrent les sabords de sa batterie, démasque à nos yeux sa formidable ceinture de canon et vient prendre la panne à bâbord à nous. À peine les deux navires sont-ils établis sous cette même allure que le capitaine anglais nous demande d'où nous venons, pourquoi nous l'avons approché de si près sous tant de voiles, etc., etc. L'interprète qui occupe la place de Surcouf, tandis que celui-ci placé à ses côtés lui souffle ses réponses, répond que nous venons de Londres, que nous avons justement reconnu la Sibie à son déguisement, que si nous nous sommes approchés avec tant d'empressement, c'est que nous avions une bonne nouvelle à apprendre à son capitaine.
« Quelle est cette nouvelle ?» nous demande l'anglais, toujours sur ses gardes.
« Celle de votre promotion, commandant, à un grade supérieur. On ne parle que de cela, à l'amirauté. Il paraît aussi, dit-on, que la Sibie doit être rappelée sous peu. Mais ceci, je vous le répète, n'est qu'un non-dit, tandis que votre nomination peut être considérée comme une chose officielle. »
Cette réponse, transmise par l'interprète avec un imperturbable sang-froid et un ton de conviction parfaitement joué, dénotait de la part de Surcouf une profonde connaissance du cœur humain. En effet, le capitaine de la Sibie, ébloui par l'annonce de la bonne fortune qui lui arrivait, commença, on put facilement le remarquer à l'expression de son visage, à abandonner ses premiers soupçons. Toutefois, l'habitude du devoir l'emporte encore un instant en lui et il reprend son interrogatoire. « Mais pourquoi n'avez-vous pas répondu plus tôt à mes signaux » hèle-t-il de nouveau. « D'abord, capitaine,
parce que les signaux ont été changés, ensuite parce que le livre de tactique et les pavillons ont été en partie détruits dans le combat que nous avons eu à soutenir.
Ah, quel combat avez-vous donc eu à soutenir ?
Un terrible s'il en fut jamais contre un corsaire bordelais que nous avons enlevé à l'abordage sur la côte de Gascogne. Je me suis même permis, capitaine, en vous envoyant les paquets que l'on m'a remis pour vous, d'y joindre deux caisses de bouteilles de cognac provenant d'un second corsaire français qui, après un nouveau et épouvantable combat, est tombé en notre puissance.
« Ah ! Très bien, » dit le vieux capitaine de la Sibie, qui, en songeant sans doute au mal que nous avons causé aux Français, et peut-être mieux aussi au cognac qu'il va recevoir, sourit agréablement à notre interprète. Toutefois, le vieux marin est tellement familiarisé avec les devoirs de sa profession qu'il ne peut s'empêcher de s'écrier avec un reste de défiance « C'est une chose réellement bizarre comme votre navire ressemble à un corsaire français. Mais c'en est un, capitaine, et un fameux encore, celui que nous avons capturé sur la côte de Gascogne.
Comme les corsaires de Bordeaux sont les meilleurs marcheurs du monde, nous l'avons préféré à notre bâtiment pour continuer notre voyage. Notre intention est, Dieu aidant, de poursuivre et de prendre Surcouf.
Un fameux coquin !» s'écria le commandant de la Sibie.
« À qui le dites-vous, capitaine ? Nous savons qu'il croise en ce moment dans ces parages-ci et qu'il y cause un tort considérable au commerce anglais. Oh, nous le prendrons, nous l'avons juré !»
Pendant que cette conversation avait lieu entre notre interprète et le capitaine anglais, les hommes du canot, commandés par l'enseigne Bléas, se mettent tout à coup à pousser des cris de détresse. En effet, leur embarcation, presque toute remplie d'eau, est sur le point de couler. Nous hélons immédiatement la frégate pour la supplier d'envoyer secourir nos hommes, car nos autres embarcations, encore plus abîmées par les boulets et la mitraille que celles qui coulent en ce moment, sont tout à fait hors d'état de tenir la mer. Comme le sauvetage de naufragés est le plus impérieux et le premier devoir du marin, dans quelque position qu'il se trouve et à quelque nation qu'appartiennent les malheureux en danger, deux grands canots se dirigent immédiatement de la Sibie pour venir au secours de l'enseigne Bléas et de ses matelots.
« Sauvez seulement nos marins !» crie l'interprète. « Quant à nous, nous allons courir un bord et les prendre en revenant ainsi que le canot. »
Pour courir ce bord, la Confiance laisse tomber sa misaine, hisse ses perroquets, son grand foc, borde sa brigantine et gagne ainsi de l'avant sur la frégate. Ce prétexte trouvé par Surcouf était un trait de génie. « Messieurs, nous dit-il en laissant joyeusement éclater toute sa joie, voyez donc comme ces Anglais, que nous sommes réellement coupables de ne pas aimer, sont bons garçons. Les voilà qui aident nos hommes à monter à bord. Bon, voilà Kerenvragne qui a une attaque de nerfs. Et Bléas. Messieurs, Bléas qui s'évanouit. Quel charmant drôle, je me ressouviendrai d'eux. Ils ont joué leur rôle à ravir. À présent, voici le moment venu de jeter le masque. Nos amis sont sauvés, et nous aussi. Maintenant, attention à la manœuvre. Toutes les voiles dehors, oriente au plus près. Bouline partout, et toi, Mousse, apporte-moi un cigare allumé. »
La brise du large était alors dans toute sa force. Jamais, non, jamais, la Confiance ne se conduisit plus noblement que dans cette circonstance. On eût dit, à voir sa marche rapide, qu'elle avait la conscience du danger auquel nous étions exposés. Quant à nous, fiers de monter un pareil navire, nous regardions avec une admiration pleine de reconnaissance l'eau filer le long de son bord écumante et rapide comme la chute d'un torrent. Aussi, avant que la Sibie ait deviné notre ruse, qu'elle nous ait tiré sa volée, embarqué ses canots et orienté sur nous, sommes-nous presque déjà hors de la portée de ses canons. La chasse commença aussitôt et dura jusqu'au soir, mais avec un tel avantage en notre faveur que quand le soleil disparut, nous n'apercevions déjà plus presque l'ennemi. La nuit venue, nous fîmes fausse route, et le lendemain matin, nous n'avions plus devant nous que l'immensité solitaire de l'océan. Ainsi s'achève la première partie de « Voyage, aventure et combat » de Louis de Garneret.